Mais que se passe-t-il si un routeur est connecté par exemple à cinq interfaces et chacune de ces interfaces est connectée à un réseau de 10 mégabits par seconde? Et que se passe-t-il si le routeur reçoit sur quatre interfaces des données à pleine vitesse, c'est-à-dire à 10 mégabits par seconde, et toutes ces données, tous ces paquets doivent être envoyés sur la cinquième interface qui va vers Internet, par exemple. Autrement dit, le routeur reçoit à 40 mégabits par seconde, mais le réseau de sortie accepte uniquement maximum 10 mégabits par seconde. Eh bien, ce qui se passe, c'est que le routeur, les paquets qui sont en trop, c'est-à-dire les 30 mégabits par seconde, seront mis dans un buffer d'attente. Mais ce buffer a une taille limitée. Une fois que le buffer est rempli, si les données continuent à arriver à cette grande vitesse, le routeur rejette des paquets. Voilà donc où les paquets étaient rejetés habituellement, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, où les paquets étaient rejetés sur le réseau. Comment se fait-il que les paquets disparaissaient? En fait, les paquets ne disparaissent pas comme ça, mais c'est les routeurs qui les rejettent lorsqu'ils sont congestionnés. Si on va au transparent 64, on peut faire une comparaison entre les différents équipements réseau que vous avez appris. Ce transparent répond à la question: quelle est la différence entre un hub, un switch, un routeur et encore d'autres machines? En fait, puisque ces équipements connectent des câbles, des réseaux, eh bien, un hub ne regarde rien dans le paquet. Donc, en fait, quand un hub reçoit un paquet, il le forward sur toutes ses interfaces. Un switch est un peu plus intelligent, puisque lorsqu'il reçoit un paquet, il sait sur chacune de ses interfaces quelle adresse MAC est à l'autre bout de l'interface, et lorsqu'il reçoit un paquet, une trame, elle la forward uniquement sur cette interface. L'avantage du switch par rapport à hub est que le switch peut traiter plusieurs flux en parallèle, alors que le hub envoie à tout le monde. Un deuxième avantage est la sécurité. Uniquement la destination reçoit le paquet et non pas toutes les machines. Et enfin, le routeur, il ne regarde pas uniquement l'adresse MAC des destinations, mais il regarde aussi l'adresse IP finale pour prendre la décision de routage, qui sera l'ordinateur suivant, le routeur suivant, qui recevra ce paquet. Alors qu'un switch ne se pose pas cette question, puisqu'il connaît déjà à qui envoyer le paquet, un routeur regarde la table de routage pour savoir à qui l'envoyer. Transparent 66, très important. Les adresses IP ont donc 4 octets. Si les 4 premiers bits sont égaux à 1111, il s'agit de la classe E, et cette classe, ces adresses IP ne sont pas utilisées. Autrement dit, les adresses IP dont le premier octet est supérieur à 240 ne sont pas utilisées sur Internet. Si les 4 premiers bits sont 1110, c'est la classe D, ce sont des adresses multicast. Elles ne sont donc pas utilisées, par exemple, par votre machine quand elle envoie des paquets, des emails, vidéos, etc. Les autres, c'est les classes ABC, les classes générales. Qui est-ce qui attribue ces adresses IP au réseau? C'est un organisme, YANA, qui gère l'attribution de ces adresses IP, mais il me semble qu'il n'y a plus d'adresses IPv4 que YANA a. Elle les a déjà dispatchées au registre régionaux d'Internet. On peut savoir le responsable d'une adresse IP en se connectant à who.is. Les adresses IP, ça a l'air simple, c'est 4 octets, mais en fait, elles sont divisées logiquement en deux. À gauche, la partie réseau, à droite, la partie hôte. La partie réseau est utilisée uniquement pour le routage. La partie hôte est utilisée uniquement sur le réseau de destination pour savoir à qui envoyer le paquet. Autrement dit, les adresses IP sont regroupées. Et tout cela pour réduire drastiquement les tables de routage. Attention, il y a une restriction ici. Quand on fait cette division, toutes les machines dans un réseau doivent avoir la même partie réseau. Par exemple, toutes les machines de notre pôle universitaire ont la même partie réseau puisqu'il n'y a qu'un seul réseau IP, si je me souviens bien, sur notre pôle universitaire. Donc les machines diffèrent uniquement par la partie haute. Alors, la longueur en bits de la partie réseau représente le mask. Par exemple, la mask slash 25 signifie que la partie réseau a 25 bits. On peut écrire ce mask de deux manières possibles, soit slash 26, soit uniquement de 1 suivi uniquement de 0 comme une adresse IP sur 32 bits. Par exemple, 255, 255, 255, 192, il contient combien de bits en 26. Donc c'est l'équivalent de slash 26. C'est un masque 26 écrit sur 4 octets. Transparent suivant, il y a deux adresses spéciales dans un réseau. L'adresse réseau, très attention, est obtenue en mettant toute la partie haute à 0, tous les bits. L'adresse de diffusion est obtenue en mettant tous les bits de la partie haute à 1. Enfin, par convention, ce n'est donc pas une obligation, l'adresse du routeur est l'adresse de diffusion moins 1. Vous avez un exemple en bas avec la réponse pour l'adresse de réseau et l'adresse de diffusion. Vous avez un autre exemple transparent suivant qui est peut-être plus explicite puisqu'on voit les bits. Comment il passe à 0 ou à 1 pour obtenir l'adresse de réseau ou l'adresse de diffusion. Et je vous donne aussi quatre exercices à faire tout de suite. Au transparent suivant 72, on voit quelques problèmes. Pourquoi, au premier point, ce masque n'est pas valable? Réponse, il y a un 0 entre les 1. Ce n'est pas possible. Un masque en écriture longue sur 32 bits contient forcément uniquement des 1 suivi uniquement de 0. Deuxième point, ce n'est pas une adresse IP puisqu'il y a 257 qui dépasse 255. Troisième point, n'est pas une adresse utilisable puisqu'elle fait partie de la classe E après 240 qui est donc réservée, non utilisée. Donc cette adresse n'existe pas sur Internet. Quatrième point, ce n'est pas une adresse de réseau puisque point 5 à la fin a le dernier bit 1. Comme le tout dernier bit de cette adresse IP est à 1, il n'y a aucun masque qui permet d'avoir une partie haute égale à 0 pour que cette adresse soit une adresse de réseau. Donc cette adresse qui finit en point 5 ne peut jamais être une adresse de réseau. Mais bien sûr, elle peut être une adresse d'hôte, de machine. Enfin, le dernier point, quand on voit que l'adresse IP de ma machine est .254, on se pose la question, mais est-ce que cette machine, ma machine, a reçu l'adresse du routeur par convention? Réponse, on voit que non, puisqu'ici, il ne s'agit pas d'un masque slash 24, mais bien d'un masque slash 23. Regardons à droite, c'est 254.0, c'est un masque slash 23, et l'adresse de broadcast, ce n'est pas 40255, mais c'est 41255. Donc l'adresse du routeur serait, si la convention est respectée, 41254. Enfin, il y a des adresses spéciales, mais je laisse cela pour la partie suivante.